conférence privée par le père Philippe à Rimont le 3 novembre 1987.
Il l'a signifié par l'envoi de son ange à son esclave Jean. attestataire, m'a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Donc Jean se porte garant en face de Dieu que ce qu'il dit est bien ce qu'il a reçu directement de Dieu. C'est ça qui est de si fort, oui. C'est tout à fait autre chose que le langage des évangiles. Il y a le livre de Daniel qui serait à mettre en parallèle. Et si on a le temps, il faut lire parallèlement Daniel. Heureux ceux qui lisent, celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Donc, promesse d'une béatitude pour tous ceux qui lisent l'Apocalypse et pour tous ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, à vous, grâce et paix de la part de celui qui est, de celui qui était et de celui qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le chef des rois de la terre. Donc c'est au nom de la très sainte Trinité que Jean parle. Et parle aux sept églises. Parce que Jean n'est pas à la suite de Pierre. Celui qui a l'autorité sur l'Église universelle. Il a l'autorité sur les sept églises d'Asie qui sont ses églises. Et c'est à ces sept églises d'Asie qu'il parle. Vous voyez comme c'est curieux et intéressant de voir la complémentarité de l'autorité de Pierre. Et des successeurs de Pierre. Il y a une complémentarité très étonnante. L'autorité de Pierre, au sens strict, n'est pas charismatique. C'est une autorité qui vient directement du sacerdoce du Christ. Et le sacerdoce du Christ n'est pas charismatique. Bien qu'il soit donné pour les autres, il n'est pas charismatique. L'autorité sacerdotale. Jean, c'est une autorité charismatique, prophétique. Quand il parle dans son Apocalypse, quand il parle dans son Évangile, il est témoin du Christ. C'est pas la même chose. Il parle encore avec une grâce particulière d'évangéliste, mais ce n'est pas le même caractère. Et c'est intéressant à bien comprendre les deux. Vous voyez comment se présente le mystère de la très sainte Trinité, ou plus exactement, comment est révélé le mystère de la très sainte Trinité. Ce n'est pas comme dans le prologue et dans l'évangile de saint Jean. Le Père, c'est l'Éternel qui est présenté comme celui qui est, celui qui était, et celui qui vient. Donc c'est l'éternité présente dans la succession des temps. C'est les sept esprits qui sont devant son trône. Et puis Jésus. Nous avons donc le Père, les sept esprits et Jésus. Alors que nous sommes habitués à dire le Père, le Verbe et l'Esprit Saint. C'est important de bien préciser cela. Si je veux essayer de comprendre, je peux dire que l'Évangile va nous donner un regard contemplatif sur les processions divines. Et l'Apocalypse nous donne un regard apostolique sur les missions divines. C'est la grande théologie des missions, l'Apocalypse. Tandis qu'au contraire, l'évangile de Jean nous montre trois grands mystères qui terminent sa vie. Le témoin fidèle, c'est la croix. Le premier-né des morts, c'est la résurrection. Et le chef des rois de la terre, c'est la cession à la droite du Père. À celui qui nous aime et nous a déliés de nos péchés par son sang, pour son Dieu et Père. À lui, la gloire et la domination pour les éternités d'éternité. Amen. Donc il s'adresse à Jésus d'une façon très particulière. Celui qui nous aime et nous a déliés de nos péchés par son sang, tout le mystère de la rédemption, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour son Dieu et Père. L'Église se présentait comme ce royaume et ce royaume de prêtres. Et on est prêtres pour le Père. Le sacerdoce regarde en premier lieu le Père et permet de glorifier le Père. Donc, à lui, la gloire et la domination, l'autorité pour les siècles, pour les éternités d'éternité. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées et tout œil le verra. Et ceux-là qui l'ont transpercé et à son sujet se frapperont la poitrine toutes les tribus de la terre. Oui. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. La venue de Jésus. Le retour du Christ. Vous voyez que tout de suite l'Apocalypse regarde le retour du Christ comme imminent. Bien. Et pour l'espérance eschatologique, le retour du Christ est imminent. Voici qu'il vient avec les nuées. Alors les nuées, c'est le symbolisme de l'Esprit Saint. Et ici, des sept esprits de Dieu. Et tout œil le verra. Alors ça, c'est aussi très important, parce que ça nous fait comprendre que dans le jugement particulier, comme dans le jugement général, c'est le Christ crucifié et dans la gloire qui se manifestera. Parce que le jugement est remis au sacerdoce du Christ, parce que c'est le sacerdoce du grand prêtre. Et tout œil, on ne dit pas seulement les élus, tout œil le verra. Et ceux-là qui l'ont transpercé et à son sujet se frapperont la poitrine, toutes les tribus de la terre. Oui, amen. Quand nous quittons cette terre, c'est la vision du Christ, autant qu'on peut le voir, qui est donnée, non pas dans une vision vous voyez bien, c'est très important de noter ici, parce que vous voyez que la trompette est là pour l'exécution. Nous y reviendrons. Parce que c'est dit ici, hein. C'est expliqué. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme d'une trompette. Voix et trompette sont liées. Qui disait, ce que tu regardes, écris-le. C'est bien, de l'ordre du commandement. La trompette, c'est toujours de l'ordre du commandement. Hein. Donc de l'exécution. Parce que le commandement, c'est toujours pour l'exécution. On ne vous donne pas un commandement pour rêver. On vous donne un commandement pour réaliser quelque chose. Le commandement est après les intentions. Faites ceci. Écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Alors les 7 églises, on va les revoir. Et je me retournai pour regarder la voix qui parlait avec moi. Cette voix est tellement forte que c'est une présence. Et c'est pour ça que Jean nous dit cela. Je me retournais pour regarder la voix qui parlait avec moi. Et m'étant retourné, je vis 7 lampadaires d'or. Et au milieu des lampadaires, quelqu'un de semblable à un fils d'homme, vêtu d'une robe d'alaire et ceint à hauteur de poitrine. Une ceinture d'or. Cette grande présence de Jésus dans la gloire. C'est pas la présence de Jésus au moment des apparitions. C'est pas la présence de Jésus sur la croix. Une autre présence pour Jean. Mais c'est très important de voir la diversité de ses présences pour mieux comprendre la présence dans l'Eucharistie qui, elle, permet de les unir. Je me retournais pour regarder la voix qui parlait avec moi. Cette voix, qui, encore une fois, qui est une présence tellement est envahissante, tellement elle est forte. M'étant retourné, je vis 7 lampadaires d'or. Les 7 lampadaires, c'est expliqué un peu plus loin. C'est les 7 églises. Je me retournais et je vis 7 lampadaires d'or. Donc, les 7 églises, symboliquement représentées par des lampadaires d'or. Faut se demander pourquoi. Et au milieu des lampadaires, quelqu'un, Jésus, apparaît au milieu des églises. Voyez, dans les Actes des Apôtres, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Ce mystère d'identité du Christ et de l'Église, ce mystère de présence de Jésus, avec les églises. Les églises sont représentées par des lampadaires d'or. Et Jésus est au milieu. Au milieu des lampadaires, quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Et ce fils d'homme apparaît dans sa dignité de grand prêtre. Jésus est glorifié comme grand prêtre. Et ça, je crois que c'est très significatif à travers toute l'Apocalypse et j'allais dire à travers tout l'évangile de Saint Jean. C'est le mystère du sacerdoce du Christ qui apparaît dans toute sa force. C'est très très beau de voir que Jésus, pour Jean, c'est le grand prêtre. Dans sa gloire. Quelqu'un de semblable à un fils d'homme, vêtu d'une robe d'alaire, et ceint à hauteur de poitrine d'une ceinture d'or. Donc, sacerdoce royal, c'est-à-dire sacerdoce d'amour. sacerdoce qui relève de la vertu de religion. C'est un sacerdoce qui relève de la filiation d'amour de Jésus à l'égard de son Père. Donc, c'est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Et non pas le sacerdoce qui va dépendre d'Abraham, comme le sacerdoce lévitique. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, comme de la laine blanche, comme de la neige. Alors la blancheur des cheveux, et cette blancheur des cheveux est montrée comme de la laine blanche, comme de la neige. Alors le symbolisme des couleurs est très intéressant aussi à noter. Le symbolisme de la blancheur, c'est le symbolisme de la victoire de l'amour. C'est pas premièrement la pureté. La pureté est une conséquence, mais c'est la victoire de l'amour. Vous voyez, la victoire du sacerdoce du Christ. Le Christ est victorieux comme grand prêtre. C'est comme grand prêtre qu'il est victorieux à la croix et qu'il est victorieux dans la gloire. Alors, cette victoire de l'amour, évidemment, implique la pureté, mais implique aussi la communication de l'amour, comme toute victoire. Ses yeux, comme une flamme de feu, et ses pieds, semblables à du bronze.
Je suis montré.
là son autorité suprême. Puisque je suis le premier et le dernier, le vivant. Et cette autorité repose sur le fait que, étant mort, il est vivant. Pour les éternités et les éternités. Cette présence de Jésus au milieu des églises qui montre qu'il est celui qui est le prince de la paix. Sois sans crainte, moi je suis le premier et le dernier et le vivant. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver dans la suite. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues sur ma main droite, et aux sept lampadaires d'or, le voici. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept lampadaires sont les sept. Et à un moment donné où le bientôt sera le bientôt terminé. l'embrassement, Zézélie, ça a été compris de façon très diverse. Ça m'étonne pas, du reste, c'est pas gênant. Hein. Parce que c'est toujours un langage symbolique qui a des significations diverses, multiples. Mais ce qui est important, c'est de retrouver l'ordre de ces significations. Parce qu'il y a toujours un ordre dans toute signification symbolique. passion et une exigence que le premier amour demeure toujours en acte. C'est ça l'exigence de la contemplation. Donc de maintenir le premier amour, la ferveur. Le premier amour, c'est la ferveur. La spiritualité de Saint Jean Clignac du Mont Sinaï. L'échelle de perfection. Tous ceux qui ont été au Sinaï doivent lire ça maintenant, tout de suite. La grande spiritualité de Saint Jean Clignac du Mont Sinaï, c'était très très beau. Et vous savez ce que dit Saint Jean Clignac dans la ferveur. Il dit, un novice fervent, c'est normal. Il ne serait pas novice s'il n'était pas fervent. Donc la grande tentation d'un novice, c'est d'en avoir assez de la ferveur. La grande tentation. C'est-à-dire de ne pas aimer d'une manière absolue. Puisque c'est ça la ferveur. Au-delà de tout conditionnement. Vous savez, comment saint Thomas définit la ferveur? Il ne faut jamais l'oublier. Ce grand spéculatif, il regarde une marmite qui est sur le feu. Il y a le couvercle. Ne s'évacue pas. Puis soudainement, quand l'eau se met à bouillir, le couvercle se lève. C'est très impressionnant. Et l'eau jaillit autour, au-dessus. Via la ferveur, c'est le bouillonnement de l'eau. C'est le bouillonnement de l'eau. Hein, n'oubliez pas. Bouillonnement de l'eau. Alors, ça dépasse les limites de la casserole. Vous savez, on dit toujours qu'on reçoit toute vérité ad modum recipientis. Donc selon les capacités et les limites de la casserole. C'est quand il y a de la ferveur qu'on n'est plus une casserole. Ce dépassement, c'est ça, c'est merveilleux, c'est ça que fait l'amour. La primauté de l'amour, c'est ça. Autrement, on reste dans son conditionnement. Tant que vous restez enfermé dans votre conditionnement, il n'y a pas l'eau qui bout. Alors pour certains, il faut que ça chauffe très fort pour ne pas rester dans son conditionnement. Conditionnement, c'est les ornières, on dégringole dedans, on retombe dedans lourdement, les vieux chevaux qui vont à l'écurie, ils retombent tout le temps dans leurs ornières, et on est très vite un vieux cheval. Quelquefois, au bout de 2 années de vie religieuse. C'est un vieux cheval qui retombe dans les ornières. Sortir de l'ornière par le bouillonnement de l'eau. C'est ça la ferveur. C'est très très beau ça. Eh bien, Jésus, vis-à-vis de ceux qui ont reçu la grâce de la contemplation, ils ont une exigence de ferveur. Le reste est très secondaire. Je sais tes œuvres. Très bien. Tu travailles bien, c'est normal. Ton labeur, très très bien. Ta patience, très très bien. En vie commune, ta patience. Tu ne murmures pas trop. Parce que les murmures, c'est ce qui supprime la patience. La vie aux amateurs. Dès que vous murmurez, vous n'êtes plus dans la patience. La patience nous cloue le bec. Un homme patient, une femme patiente, elle se tait et elle continue son chemin en silence. Dès que vous commencez à bavarder, vous n'êtes plus dans la patience. Je sais tes œuvres, ton labeur, ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants. Ah, c'est aussi très important, ça. On ne fait pas de compromis. Le contemplatif ne peut pas faire de compromis. l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Voyez comme la contemplation doit donner le discernement entre ceux qui sont les vrais apôtres et ceux qui le font des faux. Ceux qui sont des témoins du Christ et que ceux qui ne le sont pas. Et que tu as de la patience et que tu as supporté à cause de mon nom. Et que tu les as point et que tu ne t'es point lassé. Donc, la vie contemplative n'exclut pas le combat. On est en pleine lutte. C'est bien évident. présence spéciale de Jésus. Jésus est présent dans cette église d'une manière toute particulière. C'est le propre de la contemplation. C'est de découvrir la présence de Jésus. Le don d'intelligence qui nous fait découvrir cette présence.